PMERadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et Inextinso.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis, comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter PME Radio-du-bas. TV. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Melloul, associé chez Inextinso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Zera, CEO et fondateur d'Ubi Solutions. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pauline.
Alors Fabrice, vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Paris, vous êtes un vrai Parisien dans l'âme. Après votre bac, vous tentez le concours de médecine que vous manquez. Vous arrêtez vos études et vous intégrez une start-up spécialisée dans la RFID, une méthode de radio-identification qui permet de stocker et de récupérer des données à distance, je précise. On est en 2008 et vous misez beaucoup sur cette start-up, peut-être un peu trop. Racontez-nous.
J'ai été passionné par cette technologie. Ça permettait, on était vraiment les pionniers de l'Internet des objets. Donc c'était rendre tous les objets communicants. J'avais mis toutes mes économies dans cette société-là et elle a déposé le bilan. Donc, je me suis retrouvé au chômage. C'était en 2008. Et donc, parallèlement, je cherchais un emploi et je cherchais aussi des clients pour monter la boîte si j'y arrivais.
Et vous trouvez Decathlon. Vous leur proposez votre offre, les fameuses caisses intelligentes. Mmh. Vous montez ça un peu à la va-vite, je crois. Expliquez-nous d'ailleurs, c'était quoi cette révolution un peu des caisses intelligentes?
En fait, on était vraiment au démarrage de cette révolution de créer les caisses intelligentes. Donc, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que j'ai eu plus de difficultés à trouver un emploi en étant au chômage que de trouver un client. Donc, on leur a vendu tout le concept de la RFID. Donc, ça leur a, grâce à cette technologie-là, un inventaire qui prend 7 heures en code barre, prend 20 minutes en RFID. Mmh. Donc, on a une meilleure disponibilité des stocks. Et la caisse intelligente permet de fluidifier énormément pour le client. Et donc, au lieu d'attendre et de faire la queue pour payer, là, vous avez toujours des conseillers qui viennent vous aider pour acheter. Et c'est ce qui a permis de faire aussi le succès de Decathlon. Donc, grâce à cette solution, ils ont gagné à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.
Donc là, on est en 2008 et c'est là, en fait, que vous créez la société Ubi Solutions. En 2008, ce n'était pas quand même la meilleure année en termes de contexte économique. Et vous avez écrit un livre un peu sur ce qui vous est arrivé qui s'appelle « Du chômage à la French Tech, réussir en France sans argent, sans diplôme et sans réseau ». Vous nous expliquez?
J'étais complètement... moi, j'ai créé l'entreprise. Je me suis dit, si elle tient 2 mois, ce serait déjà un succès. Mm. Donc, parallèlement, je continuais quand même à chercher du boulot. Mm. Donc, je l'ai monté 1 mois après la faillite de Lehman Brothers. Donc, on était en pleine crise financière. Et en allant au bureau tous les matins, j'écoutais la radio. On disait, il faut quitter la France. On est en pleine crise. Mm. On n'y arrivera pas. Et donc, en fait... Depuis en 10 ans, on a eu énormément d'aide.
Oui.
Et donc, on a un écosystème qui est vraiment exceptionnel. Et c'était un témoignage pour montrer qu'on pouvait réussir en France quand on fait de l'innovation et qu'on a un écosystème d'aide qui est vraiment exceptionnel.
Alors, Ubi Solutions, qu'on comprenne bien, c'est une société spécialiste des solutions RFID, mobilité, cloud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans les détails de quoi il retourne?
Donc, en fait, le mot principal, c'est la traçabilité. Mmh. Donc, on va mettre des puces ou des capteurs sur chaque objet. Ça peut vraiment être des vestes, des poulets. On a fait aussi la traçabilité des poulets. On n'a pas de limite. Et on va exploiter les datas, on va les analyser, on va améliorer la productivité et les stocks de nos clients. Donc, on touche à des secteurs variés, on n'a pas de limite sur le besoin fonctionnel.
Alors, Guillaume Dosinel, quelques questions pour notre invité?
Oui, j'avais une première question en forme de clin d'œil. Quel médecin auriez-vous été et quelle spécialité?
Je voulais être dentiste comme mon père. Et au final, ça a été très dur parce qu'on se projette pour être médecin et je m'étais pas du tout projeté pour être entrepreneur. Donc l'échec a été très difficile et il a fallu se refaire et se reconstituer pour aller vers ce chemin-là. Mais ça a été très long.
Alors, j'ai malheureusement pas lu votre livre, mais réussir en France sans argent, sans diplôme, sans réseau, vraiment?
Ah, vraiment. Vraiment, je vous dis,
pas une exception.
On n'a jamais levé de fonds en 15 ans maintenant. Donc ça, c'est vraiment notre succès. Ça s'est fait progressivement, pas à pas. On a pris des clients, on a économisé, on a embauché progressivement. Mais l'écosystème d'aide est extraordinaire. Donc moi, j'ai commencé en étant au chômage avec le système d'Acre. Donc on n'en parle pas beaucoup. Et après, vous avez la BPI, vous avez les subventions, les aides à l'export. Et tout ça cumulé, c'est plusieurs millions d'euros d'aide qu'on a pu obtenir. Mais en même temps, on a mis de l'argent en face. Et c'est ce qui nous a permis de faire énormément d'innovations. Donc, on touche à des sujets comme l'IoT, comme l'intelligence artificielle. Voilà, on est très large dans le portefeuille de technologies. Et c'est vraiment grâce à cet écosystème d'aide qui est unique au monde.
Vous dites que le vrai frein, c'est le recrutement.
Ouais.
Comment faites-vous pour recruter et pour fidéliser vos collaborateurs?
Alors, nous, on a une partie des salariés qui sont intéressés dans l'entreprise. Sinon, c'est vraiment très difficile. Enfin, le recrutement, c'est le point très sensible aujourd'hui. Les mentalités ont changé après le Covid. Il y en a qui veulent du full télétravail. Il faut vraiment se réorganiser. Et aujourd'hui, on est en train d'y retravailler. Mais c'est le point assez critique. Quand je parle avec tous les entrepreneurs, c'est quelque chose qui nous prend aujourd'hui et qui est très difficile à gérer.
Yoann Melloul.
On l'a vu, vous avez démarré d'une feuille blanche en 2008 et vous avez connu une forte croissance depuis, notamment sur les 6 dernières années. Comment on digère cette croissance, puisqu'on dit toujours qu'il faut digérer la croissance, et quelles conséquences ça a sur la structuration de l'actionnariat, voire de la gouvernance?
Alors, 2019, on a une très forte croissance. On est passé de 5,5 millions à 10 millions. Elle a été très dure, très forcée, et le Covid nous a ralenti. Donc, on a tout restructuré pendant ces deux années. Alors, elles ont été très difficiles à gérer, mais elles nous ont permis de réorganiser l'entreprise pour gérer cette croissance. Et avec la croissance externe, on est passé de 2019 à 2023 de 10 à 20 millions de chiffre d'affaires.
Et quelle est votre thèse d'investissement sur votre stratégie de croissance externe, puisque vous êtes actif sur ce sujet-là?
On est actif, on n'est quasiment pas endetté, on a une forte rentabilité. Et dans notre parcours... J'étais cofondateur d'une société qui s'appelle Ubitransport, qui fait partie des French Tech 120. On avait fait une levée de fonds de 50 millions d'euros en 2019, et on a revendu cet actif à ce moment-là. Et là, on a une stratégie de croissance externe très forte. Donc, on a plusieurs entreprises dans le groupe, elles sont toutes convergentes, et on crée des services, on est dans le smart city, dans la mobilité, mais toujours lié à la traçabilité.
Combien de collaborateurs?
On est plus d'une centaine aujourd'hui.
Comment s'organise votre déploiement à l'international, justement?
On l'a commencé très tôt, on l'a commencé en 2015. On a recruté un directeur international qui parlait quatre langues, enfin qui est toujours chez nous, hein, qui parle quatre langues, donc ça a aidé. On a cherché des clients sur des verticalités très packagées. Et donc, on s'est axé sur quatre pays et ça a commencé à bien faire. Et quand un pays s'est développé, on a recruté une équipe sur place. Donc là, on a un bureau en Espagne. On est en train de remuscler l'Angleterre. Et progressivement, on y va par opportunité par rapport aux les marchés qu'on arrive à adresser.
Et enfin, quelles sont les principales menaces sur votre activité aujourd'hui? Sur la traçabilité, notamment.
Sur la traçabilité, la menace aujourd'hui, c'est vraiment, il faut être à jour sur les technologies. Les technologies évoluent tellement que si on rate un train, on perdrait énormément. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur sur tout ce qui va être vidéo, l'intelligence artificielle. Et là, tous nos investissements se portent là-dessus pour prendre cette avance technologique et ne pas rater le train.
Vous disiez aussi que c'est la mentalité aussi des clients qui avait changé. Limite, vous alliez peut-être plus vite que vos clients, c'est ça, dans la mentalité d'entreprise?
Dans la mentalité d'innovation.
Oui. Enfin,
ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que nous, on arrive avec des solutions innovantes qui apportent énormément. Décathlon, c'est pas grâce à ça, mais ça montre l'état d'esprit. Quand je les ai connus, ils faisaient 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, ils en font 15. Quand vous voyez la distribution textile où ils tombent tous les uns après les autres, donc on a peur de l'innovation. Donc nous, on arrive vraiment avec des projets où factuellement, on arrive à les démontrer des retours sur investissement. Et notre limite aujourd'hui, c'est d'arriver à les convaincre. On a peur du changement, on a peur d'y aller, on a peur d'investir. Et c'est ça qu'on accompagne et qui est un petit peu le frein dans notre développement. Mais on pourrait aller beaucoup plus vite.
Faut savoir composer avec. Je sais également que vous aimez beaucoup le sport, mais vraiment, vraiment. Pour vous, le sport est une valeur capitale. Pourquoi?
Je trouve que l'état d'esprit d'un sportif, un jeune qui fait beaucoup de sport, qui a cet état d'esprit sportif, qui sait se challenger, il a sa capacité de travail et il arrive dans l'adversité. Et ça, c'est le sport qui permet de le faire. Il y a aussi le travail d'équipe. Donc, il y a énormément de valeurs qu'on retrouve dans le sport.
Merci beaucoup, Fabrice Zera, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous, Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec GFIP et Inextinso.